Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à Jason Éducation.
Aujourd'hui, notre invitée, Lucille Denis.
Je m'appelle Lucille Denis. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
Bonjour Lucille, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci. Merci de m'inviter.
Alors aujourd'hui, on a pensé de parler beaucoup de l'enseignement de l'orthographe, puis comment, surtout en contexte minoritaire, on peut l'enseigner de manière efficace. Puis pas juste mémoriser des choses comme on a fait quand on était jeune.
Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus théorique parce qu'il faut un peu aussi comprendre, je pense, comment le français se structure et comment l'enseigner. Puis après, faire des ponts avec les autres langues de la classe, ou notamment l'anglais qui reste la deuxième langue officielle au Canada. On peut faire un lien aussi avec les langues autochtones si on a l'occasion d'avoir cette opportunité-là dans sa classe, ça serait hyper intéressant. Avant tout, avant de plonger dans l'orthographe, c'est important de travailler la conscience phonologique. Donc, on va plus d'abord travailler les syllabes, puis après ça, on va aller dans les sons. Et donc, cette conscience phono peut se faire aussi par le biais de l'éveil aux langues. Donc, on peut utiliser des albums jeunesse, on peut utiliser des abécédaires, on peut utiliser des albums jeunesse plurilingues. Donc, il y a toutes des sites internet sur éveil aux langues, notamment une enseignante à Montréal qui a fait un site qui s'appelle Elodil. Donc, on peut aller chercher des ressources là-dessus. Donc, moi, je dirais, quand je vois des élèves en difficulté, qui soient en première année, qui ont des difficultés, je vais toujours vérifier leur conscience phono et je vais vérifier ce qu'ils sont capables de faire la suppression, mais pas de la suppression, pardon, de mettre ensemble des sons et de segmenter et de séparer deux sons.
Quand on parle de phonologique, phono, ouais. C'est par rapport au son.
Exact.
Donc, ça veut dire quoi exactement?
C'est-à-dire, c'est la manipulation des phonèmes, des sons d'une langue. Donc, est-ce qu'il est capable de faire « me »,« a », ma, tu vois? Est-ce qu'il est capable de séparer peu, wa, poids en peu, wa? Donc, c'est ça. Il n'y a pas de support écrit, c'est-à-dire on ne voit pas le p et le wa. C'est juste à l'oral. On peut s'aider d'images si on veut. Exemple, dans cette image-là, coq, et on peut montrer le coq parce que s'ils ne connaissent pas le vocabulaire, ça peut être un obstacle. Fait qu'on peut montrer l'image d'un coq. Et dans le mot coq, il y a combien de sons? Que, o, que, trois sons. Et pareil, si on fait de la fusion de deux sons, on ne dit pas peu avec wa, on va dire peu wa. On va laisser comme une mini pause pour que l'enfant puisse les mettre ensemble. Et moi, en fait, dès septembre, je commence à tester les enfants avec ça, justement. Je ne le fais pas deuxième, troisième année, je le fais dès la première année. Et si un élève est en grande difficulté, je vais regarder comment est sa phono, comment est sa conscience phonologique. Donc, je fais ça. Et puis aussi, petite indication, je demande aussi le nom des lettres et le son des lettres. Aussi, je vérifie ça pour les premières années. Aussi, on peut travailler la conscience morphologique. Exemple, le petit de la baleine, c'est le baleineau. Donc, on peut s'amuser avec les noms des bébés, des animaux comme ça. Donc, la girafe, girafo. Donc, travailler cette conscience morpho, c'est-à-dire qu'on prend le suffixe « o » et on l'applique à différents animaux. Ce n'est pas vrai pour tous les animaux, mais il y en a quand même quelques-uns qui finissent en « eau ».
Pardon, morphologique, c'est par rapport à quoi?
Alors, la morphologie, merci beaucoup. La morphologie, c'est les plus petites unités de sens, c'est-à-dire c'est préfixe, suffixe et racine du mot. Si je te dis le mot accidentel, et bon, ben dans accidentel, tu as le mot accident. Donc, accident, ça serait la racine, et le L qu'on a rajouté à la fin, ça serait la marque morphologique de l'adjectif. Donc, ça peut être des choses comme ça. Et puis, la conscience syntaxique, et ça, donc morphologique et syntaxique, on peut le travailler toutes les années. Ce n'est pas juste la première année, ça peut être toutes les années. Et conscience syntaxique, c'est exemple, combien il y a de mots dans la phrase j'amène. J'apporte le gâteau chez moi. Donc là, le J apostrophe, déjà là, peut être un obstacle pour les enfants. Donc juste de travailler à l'oral, j'apporte un gâteau, on peut faire des phrases plus courtes, puis augmenter les phrases au fur et à mesure. Déjà là, ça fait travailler la conscience morphologique, syntaxique, pardon. Et ça peut être très intéressant après pour travailler la grammaire, la structure d'une phrase. Et comment on part d'une phrase de base et comment on peut ajouter d'autres éléments. Donc, il y a tout un travail à l'oral qu'on peut déjà faire. Donc, ça, c'est, mettons, les fondements, je dirais, de l'orthographe.
Oui, si on ne comprend pas qu'un mot est créé par plusieurs sons, puis là, on ne peut pas aller plus loin avec des phrases écrites parce qu'on ne comprend même pas comment un mot est fait de plusieurs sons.
Exactement. Puis en anglais, je lisais ça, une orthophoniste qui a publié ça sur Instagram, elle disait en anglais, il y a beaucoup de lettres muettes dans les mots, tandis qu'en français, c'est plus à la fin des mots, les lettres muettes, notamment le fameux « e ». Mais si je pense au mot « bout », B-O-U-T, le « t » est muet. Donc, il faut faire aussi, ça peut être aussi des parallèles qu'on peut faire entre les langues. En espagnol, toutes les lettres sont sonores. Fait que ça aussi, on peut montrer ça aux enfants, qu'en français, il y a des lettres muettes, mais en espagnol, il n'y a pas de lettres muettes. Donc ça peut être vraiment intéressant. Aussi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de l'orthographe lexicale des mots. On ne va pas parler de l'orthographe grammaticale. L'orthographe grammaticale, c'est vraiment comme les conjugaisons, les pluriels, les féminins. Ça, on n'en parle pas. On va juste se concentrer sur l'orthographe des mots. Et ça, pareil, quand je travaille avec des enfants, notamment pour se corriger, nous, on fait beaucoup dans notre... avec une enseignante, on faisait beaucoup de dictées métacognitives où les enfants posaient des questions pour se corriger. Et avant ça, avec les enfants qui étaient un peu plus en difficulté, mais ça peut être pour toute la classe, je leur faisais vraiment un espèce de tableau avec des questions, une matrice de questions, et je distinguais orthographe lexicale et orthographe grammaticale. Donc ta question, est-ce qu'elle porte sur l'orthographe, mais non sur le féminin, ou est-ce qu'elle porte sur les règles d'orthographe? Donc déjà là, ça permet aux enfants de... Moi, je trouve d'alléger un petit peu ce gros nuage, cette grosse montagne de l'orthographe, de leur dire, attends, là, ta question, elle porte sur l'orthographe, fait que regarde ton répertoire de règles d'orthographe. OK, là, ta question, elle porte sur le féminin, regarde tes règles sur le féminin. Ça permet un peu de déjà un peu étayer leurs connaissances.
Alors, des questions comme quoi, par exemple?
Alors, si on est en dictée, alors, il y a un groupe Facebook qui existe, Dictée Zéro Faute ou Dictée Métacognitive. J'y vais avec accidentel. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que accidentel est au féminin? Mettons, je dis une phrase et puis l'enfant pose la question, accidentel est au féminin. L'enseignant ne peut répondre que par oui ou par non. Donc, il peut répondre oui. Est-ce que accidentel s'accorde avec le mot voiture? Oui. Donc là, ça veut dire que lui, l'enfant, il faut qu'il comprenne que voiture, c'est féminin, donc accidentel, c'est l'adjectif, donc il accorde, etc. Donc il y a tout un processus. Et ce qu'on veut emmener à l'enfant, c'est l'emmener à se poser des questions tout en utilisant un vocabulaire de syntaxe. Donc on appelle ça du métalangage, donc réutiliser le vocabulaire.
Oui, parce que j'entends dans ces questions-là que l'élève doit comprendre plusieurs éléments avant de même pouvoir poser cette question-là.
Exactement.
Il doit comprendre que mais accidentel, c'est un adjectif, puis ça s'accorde avec un nom, par exemple.
Exactement. Au début, on va plus modéliser, où on va prendre les élèves qui ont un peu plus de stratégie comme modèle, et les élèves en difficulté vont avoir un modèle. Ce que je faisais aussi, donc comme je disais, je faisais déjà un tableau préparatoire avec des amorces de questions. Je demandais à un élève qui était en difficulté, prépare-moi une question. Ou pendant qu'il écrivait sa dictée, je dis, ah regarde, ça peut être une bonne question. Donc je préparais déjà l'élève en difficulté pour qu'il pose au moins une question, pour qu'au fur et à mesure, il puisse développer sa confiance aussi et sa réflexion.
Alors sur les l'orthographe. Questions par rapport à l'orthographe lexicale seraient comme quel genre de questions?
Je mets ça, ta question sur la glace, sur pause, parce qu'on va y revenir tout à l'heure.
OK.
OK? Mais c'est une très bonne question. Si je ne l'aborde pas, tu me le rappelleras, OK?
OK.
Donc, pour l'orthographe, l'enseignement de l'orthographe, il n'y a pas de progression, à ma connaissance, sur quelle graphie enseigner en premier sur l'écriture. Il y en a une en lecture, par contre, qui a été faite par Nina Katal, mais pour l'écriture, il n'y en a pas. Il y a du matériel qui existe quand ils enseignent l'orthographe. En fait, ils sont basés sur cette liste-là de progression de lecture. Dans le fond, c'est parce qu'il faut toujours allier ensemble lecture et écriture. C'est-à-dire que si vous voyez une graphie en écriture, ben, ce serait bien de l'avoir en même temps en lecture. Comme ça, il y a vraiment une solidification qui se fait et pas deux choses séparées. Comme des fois, il existe des programmes, on prend une méthodologie de lecture, puis on prend une autre méthodologie pour l'orthographe, pour les dictées. L'idéal, ce serait que ce soit cohérent pour qu'il y ait une progression. Par contre, il y a quand même des principes pour enseigner l'orthographe. Puis là, j'y vais juste avec l'orthographe française. Toujours garder en tête qu'on peut toujours faire des liens si on a une volonté d'introduire le plurilinguisme, faire des liens avec les autres langues. C'est sûr que là, l'enfant devient expert de sa langue. Parce que moi, par exemple, je ne parle pas portugais. Mais s'il y a un élève, un apprenant ou une élève qui parle le portugais, on peut faire des liens. En plus, c'est des langues romanes, fait qu'il y a vraiment des liens à faire puisqu'il y a une racine commune. Donc, ce qu'on sait sur l'orthographe, c'est que d'abord, il faut faire un enseignement qui soit explicite, structuré et progressif. Donc, une graphie à la fois. Et je dis bien graphie, je ne dis pas son. Une graphie à la fois. Et c'est pour ça que la liste de katash devient de Nina Katash est intéressante parce que, par exemple, le wa est dans la liste assez haut parce que c'est une graphie qui ne bouge pas beaucoup dans les mots. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots où quand on entend le son wa, on va l'écrire oi. Donc ça, pour les enfants, et en particulier, je pense aux élèves en difficulté, parce que c'est quand même une de mes filtres, de mes spécialisations, c'est que quand c'est consistant comme ça, c'est plus facile à retenir. On n'a pas à chercher d'autres façons de le faire. Parce que le son O, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de l'écrire. Oh. Donc, les joies de l'orthographe française. Et en anglais, il y a encore plus d'idées qu'en français au niveau de l'orthographe lexicale. Donc, c'est vraiment important d'y aller avec quelque chose qui soit consistant d'abord pour les enfants. Pareil pour les structures syllabiques. Les structures syllabiques les plus utilisées en français, c'est consonne-voyelle, c'est consonne-consonne-voyelle et consonne-voyelle-consonne. Moi, je fais juste ça avec mes élèves en difficulté. Je vois juste ces trois structures-là. Après ça, au fur et à mesure, ils vont développer des stratégies aussi de combien il y a de sons dans une syllabe, etc. Et d'ailleurs, dans une syllabe, il y a toujours une voyelle. Toujours. Ça peut être un indice aussi. Si je vais écrire le mot cartable, si l'enfant oublie le A dans cartable, ou arbre, qui peut être aussi un classique, mais arbre, c'est un peu plus complexe parce qu'on peut parler de syllabe orale, syllabe écrite. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a un débat. Mais des fois, ils oublient les R, etc. Mais si j'y vais avec cartable et qu'il oublie le A, de lui dire, regarde dans la syllabe car, combien tu entends de sons et est-ce que tu as mis une voyelle. Donc ça, cet indice-là de mettre une voyelle dans chaque syllabe, déjà, ça peut être une stratégie de correction pour l'enfant. Donc je commence toujours par consonne-voyelle, qui est quand même, en règle générale, acquis assez rapidement par les élèves, même les élèves en difficulté. Là où ça devient un peu plus un défi pour les élèves, c'est quand c'est consonne, consonne, voyelle, comme pra, clé, ou consonne, voyelle, consonne, comme par, car, pour. Donc là, on va y aller avec conscience phonologique et passage après à l'écrit. Et là, on peut mettre en... Moi, je commence d'abord toujours avec le R, après je mets le L. Je commence toujours avec des voyelles comme O, A, I, et après ça, j'y vais avec WA, etc. À l'oral, ça pose peut-être moins de problèmes, mais à l'écrit, il faut qu'ils aient vu les graphies. Donc voilà. Donc, faire attention, c'est ça, à l'anglais. Et puis... Il existe sur Internet du matériel où il y a des listes de mots, puis là, l'enfant fait pra, dra, ta, ta, comme une espèce de drill, comme ça. En anglais, c'est très utilisé. Moi, je mets un petit bémol personnellement pour le français, c'est mon opinion, parce qu'en français, les mots courts sont plus rares qu'en anglais. Et moi, je préfère travailler d'abord la conscience phonémique, donc des sons, après ça, travailler des syllabes et ajouter des mots de deux ou trois syllabes. Parce que plus ils vont aller dans les années en français, quatrième, cinquième année, plus les mots qu'ils vont utiliser ou auxquels ils vont être exposés vont être de deux ou trois ou quatre syllabes. Donc, je préfère qu'ils d'abord mettent en place des stratégies de découpage de syllabes et de fusion de sons plutôt que de lire automatiquement des listes. Moi, personnellement, c'est ça que je fais. Donc, pour revenir à ça, c'était comme les bases un peu de l'enseignement de l'orthographe, mais moi, dans ma pratique, j'utilise un modèle de Lynn LaPlante qui s'est inspirée elle-même de Seymour en 2008, mais Lynn LaPlante, elle a fait un modèle de lecture, en fait, pour amener des lecteurs débutants, des lecteurs experts. Et pareil pour des scripteurs. Il existe d'autres modèles pour l'orthographe lexicale. Je vous partage celui que je connais le mieux et que j'utilise quotidiennement. Lynn LaPlante, dans le fond, elle dit qu'il y a deux processus. Il y a les processus spécifiques et les processus non spécifiques. Et tout ça, c'est chapeauté par les fonctions comme planification, ajustement, révision, etc. Moi, je vais me concentrer plus aujourd'hui sur le processus spécifique parce que c'est propre à la langue française. Non spécifique, ça veut dire que c'est applicable pour toutes les langues et là, c'est plus la compréhension. Et là, ça fait écho un peu au modèle de Simple View of Reading où c'est du décodage fois les compréhensions langagières qui donnent la compréhension. Donc, le décodage, c'est ce que Lynn LaPlante appelle les processus spécifiques. Compréhension langagière, c'est ce qu'elle appelle les processus non spécifiques. Et là encore, il y a une progression. On appelle ça un enchâssement des processus, mais on pourra en faire un autre balado là-dessus. Un autre épisode parce que c'est autre chose. Là, en plus, je résume un cours de 30 heures que moi, j'ai eu sur un 30 minutes. Fait que ça va être condensé aussi. Dans le fond, dans les processus spécifiques, vous avez le traitement logographique et le traitement alphabétique. Le traitement alphabétique, c'est la fameuse correspondance phonème-graphème. J'entends le son O, je l'écris dans la graphie dont on pense, A-U-E-A-U-O. Jusqu'en deuxième année, mettons s'il écrit bateau B-A-T-O, si l'enfant écrit B-A-T-O, ça ne posera pas de problème. Par contre, si arrivé en troisième année, donc là je parle plus peut-être pour des élèves qui sont plus en langue première, ça serait le français. Ceci dit, ça peut être aussi des indices pour les apprenants dont le français n'est pas leur langue première. Fait qu'il faudrait voir aussi, c'est selon sa classe aussi, selon son groupe. Mais en tout cas, si j'y vais avec des langues premières, arrivé en troisième année, il faut que l'enseignement du EAU, donc quand j'entends O en fin de mot, j'écris EAU la plupart du temps, arrivé en troisième année, il faudrait que ces règles, selon le contexte, soient un peu plus acquises. Mais avant ça, s'il écrit bateau, B-A-T-O, déjà là, ça veut dire que sa correspondance phonème, graphème ou graphème, phonème est adéquate. Fait que ça, c'est bon. Traitement logographique, c'est les mots fréquents, mais pas forcément les mots fréquents de la liste qu'on peut voir sur Internet. C'est aussi de son environnement. Si le mot frite fait partie de l'environnement de l'enfant parce que ses parents tiennent un restaurant, ça fait partie de traitement logographique. Il faut que ces deux traitements-là soient assez solides pour que le traitement orthographique après puisse se faire. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai des élèves, exemple, qui n'ont pas le O, bon, c'est assez rare, je dois dire, mais exemple, je reviens d'abord à bateau, B-A-T-O. OK, il a mis son O. Maintenant, regarde, il y a une règle contextuelle qui existe. Quand tu entends O en fin de mot, tu écris E-A-U la plupart du temps. Donc, mais d'abord, solidifier cette correspondance phonème-graphème. Il ne faut pas miser que sur ça, parce que c'est seulement 50% des mots de la langue française qui... Ouais, c'est ça, exactement. Là, vous ne voyez pas, mais elle met la main sur la tête. Fait qu'on ne peut pas miser que sur ça. C'est impossible. L'enfant sera toujours en difficulté, c'est 50% des mots. C'est pour ça que le traitement orthographique devient intéressant. Donc, les fameuses règles contextuelles. Donc là, je vous ai parlé du EAU en fin de mot. Le plus connu, ça serait le C-dur, le C-doux, le G-dur, le G-doux. Mais attention, là encore, il y a une différence entre l'écriture et la lecture et aussi dans la progression. Comme le mot « accueil », je ne vais pas le donner à des troisième années. D'abord, je vais leur enseigner qu'on rajoute un U si on veut un E. Et le... Attendez, parce que là, je mélange. En fait, le mot « accueil », il y a deux règles de mélanger. Il y a le C-dur et il y a le « œil ». Fait que je ne vais pas aller avec accueil, mais mettons, si je veux leur enseigner que G-U-E, ça fait gue, je vais y aller avec le mot guenon. Et après, un peu plus tard, je vais y aller, mettons, quatrième, cinquième, sixième année. Là, on va aller dans le accueil, qui devient un peu plus un défi. Mais d'abord, je vais leur donner des mots avec une règle contextuelle un peu moins tricky, j'allais dire, moins difficile, mais non que accueil. Donc, c'est ça. Après, il y a d'autres règles contextuelles, on appelle ça des régularités orthographiques. Et dans le fond, si vous allez sur Google, tableau des régularités orthographiques, vous en avez plein. Exemple, son « est » en début de mot s'écrit « a-i ». Aigle, aime, aide et tous les mots de la même famille. Quand c'est un nom féminin, « est » s'écrit « e », bobette, devinette. Puis là, vous pouvez faire même de la morphologie. Maison, maisonnette. Fille, fillette. Donc moi, je combine les deux. Et même que je prends le livre « Une cachette pour les bobettes » pour introduire cette leçon d'orthographe-là.
Parfait.
Je fais de la pub pour le livre. C'est ce que j'aime beaucoup, ce livre, c'est André Poulain, « Une cachette pour les bobettes ». C'est très, très bien fait. C'est une histoire vue par quatre personnages différents. Il y a un travail sur la couleur aussi qui est fait dans cet album-là. Je l'aime beaucoup. Mais il y a d'autres albums avec ETTE, mais bon.
Et pour, je pense, c'est un mystère, n'est-ce pas, ce livre-là? Puis si tu regardes comme les pages, ils sont collés comme la page couverture, c'est seulement comme ça que tu vas découvrir qu'il a vraiment volé les bobettes.
Dans le fond, dans les pages de garde, donc les celles qui sont collées
les
à la couverture, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a le début de sa journée à l'enfant, parce qu'il y a un protagoniste, donc il y a et la fin de la journée où justement il y a un mystère et là on découvre qui a mis une bobette, en tout cas. Faut pas trop révéler, mais c'est ça. Oui, oui. Donc, et puis même on peut retracer la journée aussi avec les différents éléments du livre. Non, moi je trouve que c'est une pépite. J'aime beaucoup ce livre-là. Donc, les régularités orthographiques, on peut commencer dès la première et deuxième année à les voir, comme le EAU, mais on ne va pas miser sur ça. Moi, dans ma tête, moi, je me dis, OK, si mon élève de deuxième année, donc sa langue première n'est pas le français, il n'a pas le EAU, je vais le voir, il peut le voir en classe, mais je ne vais pas être absolument, il faut qu'il l'ait, quoi. Je vais attendre.
Et ça peut-être serait troisième. Quelque chose qu'on répète peut-être pendant plusieurs années.
Oui, oui, oui. Le EAU, en règle générale, ça va. Mais le GU, le CU, ça reste une difficulté. Et tu sais quoi, ce qui est difficile aussi, jusqu'à même en sixième année, c'est les EI, AI, OUI, EI, I. Donc moi, je dis aux profs, là, tu vois, mais j'ai les profs de quatrième année, je dis, vous commencez votre année avec ça. Comme ça, vous répétez ça tout au long de l'année. Et quand on fait nos dépistages de septembre, donc moi, je leur donne des listes de mots à écrire. Donc ça, c'est moi qui les fait. Je leur donne une liste de mots. Donc, ces mots-là ont été choisis en fonction des leçons qui vont être enseignées jusqu'en janvier. Et pour savoir un peu c'est quoi leur connaissance. Et en deuxième année, souvent, c'est le che, ch, souvent, ils vont l'écrire sh. Le gne, gn, qui passe pas. Donc ça, je vais le faire plus en début d'année. Pour des deuxièmes années, le œil et ouï, on va un petit peu attendre. Mais par contre, troisième année, je vais commencer assez tôt. Si, mettons, les wa, les ou, les e, les s sont pas là. Ce sont là, je veux dire. Mais s'ils sont pas là, je vais recommencer avec les wa, les ou, les yin, grosse difficulté, les ouin, grosse difficulté. Parce que ce sont des semi-voyelles aussi. Donc, c'est là où c'est un peu plus difficile. Et moi, d'ailleurs, quand je fais de la conscience phono, j'avoue que j'évite de dire à l'enfant, il y a combien de sons dans le mot coin? Parce que c'est une semi-voyelle, donc là, c'est hyper difficile. Donc, j'évite ces mots comme ça.
Oui, bonne idée.
Et pareil aussi, après, il y a le fameux « e » en fin de mot avec « table », deux syllabes ou une syllabe. J'ai pas de réponse au niveau de la science. Enfin, les experts, ils diraient qu'il y aurait juste une syllabe si on y va du langage oral, mais c'est parce que nos élèves, ils oublient le « e », en fait. Fait que moi, j'y vais avec deux syllabes, puis on peut parler de syllabe écrite, donc « ta ». Bleu, est-ce que tu as une syllabe dans est-ce que tu as une voyelle dans chaque syllabe? Donc, quelle est cette voyelle magique, plus ou moins magique, qui fait résonner le L? Ah, c'est le E, exact. En plus, moi, j'utilise mon prénom parce que je dis, à la fin de mon prénom, il y a un E, mais dans le tien aussi. Donc, du coup, je dis, ah, c'est le E de Lucille, etc. Donc, je joue un peu sur ça pour qu'ils y pensent. Donc, je dis que c'est comme une petite fée qui met un E à la fin aussi.
Moi, j'ai dit l'année passée, ce E-là fait comme donne le microphone à la lettre précédente.
C'était comme, j'adore.
Et tu veux parler? Ah, voilà, le, alors il faut.
Ah oui, vraiment, vraiment. Ah ouais, c'est cool ça. Aussi, je voulais parler qu'il y a une distinction entre les mots fréquents et les mots irréguliers. Il faut faire attention à ça dans les listes de mots fréquents. Alors, première des choses, dans les dictées, on ne fait pas de dictée à thème. Je bannis ça. Si on donne des listes de mots, ce n'est pas pour les thèmes. C'est par régularité ou par graphie.
Donc, tu veux dire, OK, c'est octobre et on étudie l'Halloween, alors les mots sont tous comme thème Halloween. Tu préfères, on travaille par un son, alors c'est le son, je ne sais pas, qui là, tous les mots suivent cette régularité.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser, sur mon Instagram, à un moment donné, j'ai fait une publication et j'avais dit à l'écrit la voyelle « wa ». Il y a une orthophoniste qui m'a reprise, qui m'a dit « non, les voyelles, c'est juste à l'oral, on parle de graphie quand c'est à l'écrit ». Et je trouvais ça intéressant, je ne le savais pas, fait que je vous le partage. Bon, effectivement, on étudie une graphie et on étudie une règle orthographique pour les listes d'orthographe. On n'est pas dans le thématique parce que fantôme avec marmite, avec sorcière, c'est plein de sons, plein de graphies, plein de règles mélangées. Et les enfants en difficulté, et surtout nos élèves qui ne sont pas langue première, waouh, ça fait beaucoup, beaucoup. En fait, c'est que de la mémorisation, puis ils ne vont pas s'en rappeler deux semaines après.
Exactement. Puis pour certains élèves, ça marche bien, mais pour beaucoup d'autres, c'est juste, c'est pas comme ça que tu vas appliquer des règles plus tard pour bien écrire des mots.
Exact, parce que le transfert, moi je pense que le transfert, à part les élèves, peut-être un ou deux élèves qui ont des bonnes stratégies qui vont faire ce transfert-là, mais même les élèves qui apprennent par cœur ces listes de mots-là, après si on leur donne 2 semaines après un texte à écrire, ils vont écrire le mot sorcière différemment, puis fantôme différemment, etc. Si on veut vraiment faire, mettons, si vous faites des dictées ou autres évaluations d'orthographe, allez-y avec une graphie à la fois et de rappeler, donc de rappeler souvent parce qu'il y a la courbe de l'oubli, donc après un certain temps on oublie, fait que de faire des, moi je appelle ça des piqûres de rappel pour pas qu'ils oublient. Donc mot fréquent et mot irrégulier, le mot monsieur est un mot hyper fréquent mais hyper irrégulier, il ne s'écrit pas comme il se prononce, donc attention dans votre choix de mots fréquents à pas mettre des mots irréguliers. D'abord on va enseigner la graphie. Après, on va utiliser les mots qui ne suivent pas cette règle-là. Je pense, mettons, à cette règle qui dit que quand on entend hack, at, app, at, hack, at, app, hack, je n'oublie rien, je suis sûre, on double la consonne. Dans le fond, ça fait A, C, C, A, T, T, A, P, P. Sauf que, et A, F, F aussi, pardon. Sauf que le mot Afrique ne rentre pas dans cette règle-là. Donc, d'abord, on va enseigner que quand on entend AF, on va l'écrire AFF. On va trouver des mots comme affirmer, affirmation. Moi, j'aime beaucoup utiliser, quand je donne des listes orthographiques pour les dictées ou autres, moi, je donne beaucoup des mots de la même famille pour augmenter le vocabulaire. Et ça fait travailler aussi la morphologie. Donc, affirmation, affirmer, coup, appeler, appel, un appel, appeler. Et puis, je donne après les mots qui sortent de cette règle-là. Mais d'abord, on va aller consolider cette règle-là.
Alors, ça, c'est au début d'un mot, n'est-ce pas?
Exact. En début d'un mot. Parce que moi, j'ai une élève qui m'a mis ça en milieu de mot. Je suis comme, non, 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 c'est seulement en début de mot. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se... Mais quand est-ce qu'on met 2 fois la même consonne? Puis là, des fois, ils mettent en plein milieu. Surtout en anglais, des fois, ils se calquent sur l'anglais. Mais avec cette règle-là, ça peut déjà donner une indication. Puis pareil, il y a aussi pour les adverbes aussi. Des fois, on double la consonne. Parce que c'est une règle des adverbes. Mais ça, c'est... Plus pour les plus vieux, ça. On va pas commencer ça en troisième année. Ça, c'est vraiment plus pour les plus vieux.
Alors, pour toutes ces règles contextuelles ou les régularités ici pour les graphies, est-ce qu'il y a un document que tu recommandes qui donne toutes ces règles-là?
Donc, il existe du matériel qu'on peut acheter. Sinon, si on va sur Internet, on mettra le lien. Il existe un tableau des régularités orthographiques.
OK. Alors, je vais mettre ça dans les notes pour l'épisode.
C'est un centre de services scolaires à Montréal qui a fait ça, si mes souvenirs sont bons. Après ça, on peut trouver aussi sur le site de l'Institut des troubles d'apprentissage. Il y a une petite vidéo qui a été faite là-dessus pour enseigner les régularités orthographiques. En tout cas, il y a quand même un petit peu de matériel aussi. Mais pareil, c'est encore pour des apprenants de première langue français. Ce n'est pas encore adapté pour un contexte minoritaire. Mais en tout cas, on peut s'en inspirer. Moi, ce que je fais aussi pour faire, ben, je fais plus le lien avec l'anglais, c'est que, mettons, hier, j'avais un élève qui était en sixième année, qui lui, on faisait le lien avec l'anglais. Mettons, on disait ben, un acteur, bon, en anglais, un professeur, professeur. En tout cas, le OR en français devient EUR. Et ce que je disais, c'est que vu que c'est un nom masculin et que c'est un métier, en fait, c'est que des métiers, il n'y a pas de E à la fin. Donc ça aussi, pareil, sur est-ce que je mets un E ou pas, etc. Parce que c'est pas vrai que le E indique le féminin pour les noms communs. C'est 50% des mots masculins qui ont un E à la fin. Donc, mais si je dis, si je dis attention à ça, dire ah bah c'est féminin, donc tu mets un E, oui, mais c'est pas vrai tout le temps. Pas pour les noms
Oui,
communs.
OK.
Pour les adjectifs, c'est autre chose. Mais pour les noms communs, c'est pas vrai. Donc, dire par contre que quand c'est un métier, un acteur, EUR, et regarde, on fait le lien avec l'anglais, acteur, excusez-moi pour mon accent. Puis je suis sûre qu'en espagnol, en d'autres langues, on peut faire des liens aussi avec ça. Pour les langues romanes, il doit y avoir un lien. Je ne sais plus comment on dit acteur en espagnol, mais ça peut être intéressant de voir. Ou docteur, facteur, professeur, tout ça. Donc moi, je fais comme ça, je fais des liens de comparaison entre les langues, puis on observe, et puis ils se servent de leur bagage à eux. Puis je voulais aussi parler de la métacognition, dans le fond, c'est bien aussi de présenter aux enfants, d'aller chercher leurs connaissances antérieures. Qu'est-ce que vous connaissez, mettons, sur les différentes façons d'écrire le son O? J'y vais avec O parce qu'aujourd'hui, je suis sur ça, mais ou aïe, ou aïe. Connaissez-vous des mots? Fille, soleil, bateau. OK. Fait que là, on peut aller chercher d'abord les connaissances. Comme ça nous permet de voir un peu où est le niveau de notre classe. C'est quoi un peu? Puis sur Instagram, il y a une orthopédagogue qui aujourd'hui a publié justement comment activer les connaissances antérieures. Elle s'appelle Au pied de la lettre. Donc c'est son nom d'Instagram. Donc elle a dit donc créer des schémas et lier des mots entre eux. Donc ça c'est une première chose. Sinon on peut présenter ses connaissances par des listes. On peut aussi faire un croquis. On peut faire un réseau littéraire. On peut faire des tableaux réflectifs sur mes connaissances, qu'est-ce que je veux savoir, échanger avec les partenaires, donc faire des échanges entre les enfants, ça peut être super intéressant, des vidéos et poser des questions aux élèves. Donc ça permet un peu de varier aussi et de faire un retour à la fin sur qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que vous retenez de la leçon. Et ça, c'est en lien avec la mémoire. Il y a des recherches qui ont montré que les premières minutes d'un enseignement sont retenues par l'enfant. Au milieu, c'est un peu oublié, désolé. Puis vers la fin, ils retiennent l'effet de récence. Donc, l'objectivation permet d'aller chercher en mémoire, d'aller mettre en mémoire, en fait, les connaissances qui ont été vues. Parce que malheureusement, il y a un moment où ils vont un peu oublier ce qu'on a dit. Donc, oui, allez. Mais c'est scientifique. Ce n'est pas forcément un problème d'attention, etc. C'est marqué par la recherche. C'est en lien avec la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc, les premiers effets, comme ça, les premiers moments de la leçon sont retenus. Ça, c'est la mémoire. Ça a été mis dans la mémoire à long terme. Fait qu'on va les chercher. Puis, les derniers moments, les derniers éléments de la leçon, ça, c'est la mémoire à court terme. Fait que voilà. Puis entre eux, bah, il faut répéter. Mais ça, je pense que tous les enseignants le savent. Et enseignantes, il faut savoir qu'on répète.
Oui.
Donc voilà, c'est à peu près ça. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est je leur présente une liste de mots. Puis là, ils essayent de trouver le point commun. Ils essayent de dégager la règle orthographe. Ça, j'aime beaucoup faire ça en début de leçon. Et après ça, je leur donne l'orthographe. Donc, je pars de qu'est-ce qui se dit à l'oral et comment on l'écrit. Donc ça, c'est dans beaucoup de matériel, on a ça. Après, il y a aussi ce que j'aime faire, c'est que je leur demande de prendre deux mots et là, ils remplissent une feuille, donc ce que j'appelle l'étude du mot. Donc, ils écrivent le mot, à quelle règle ça fait appel, est-ce qu'il y a une autre règle cachée? Mettons, si je vais avec appellation, bah, il y a la règle du APP et il y a le sion. En fin de mot, le sion s'écrit T-I-O-N, sauf quand il y a un E et un I, on met deux S, comme impression. Et là, multiplication, ça marche, à 10. Ce ne sera pas deux S, ce sera un T. Faut faire attention, il y a des mots qui ne suivent pas la règle. Mais on essaye de choisir d'abord des mots qui rentrent dans la règle. Donc d'abord, moi, j'enseigne le T-I-O-N. Et après, j'enseigne le 2S-I-O-N, avec comme impression. Mais je les sépare, parce que c'est deux règles. Enfin, pour pas qu'ils mélangent tout, parce qu'après, ils mélangent tout. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, en fait. Donc une graphie à la fois, ou une règle à la fois. Donc dans cette fiche d'étude des mots-là, donc, aussi, je leur demande un synonyme, un antonyme, un mot de la même famille, si c'est possible. Et je leur demande de faire une phrase avec ce mot-là. Et une phrase, on essaye qu'elle ne soit pas juste « il y a deux bonbons ». Okay, on essaye, à moins qu'ils soient en première année. Mais en fait, je veux leur montrer qu'une règle, une phrase de base, c'est un sujet avec un prédicat et si possible, un complément de phrase. Et plus ils avancent, plus je leur demande de complexifier leur phrase. Donc, je peux rajouter un adjectif, je peux rajouter un complément du nom. Et ça, c'est un travail avec la grammaire. On a fait un épisode sur la grammaire. Fait qu'on, la phrase mentor, etc. Ça peut aller réécouter l'épisode
oui,
sur
c'est
la
ça,
grammaire.
C'est ça. Et moi aussi, il va falloir que je réécoute.
Donc, de trouver des modèles où eux, après, ils puissent réinvestir. Et ça fait des liens entre les disciplines. Quoi. C'est pas juste l'orthographe, c'est pas isolé comme la grammaire, c'est pas isolé. Le but, c'est de réintégrer ça dans des textes. De leur production d'écriture, etc. Donc voilà. Et je voulais juste dire aussi que dans le modèle de Nina Plante, donc on avait le traitement logographique, la fréquence, enfin une fréquence des mots, traitement alphabétique, donc correspondance phonème, graphème, graphème, phonème, traitement orthographique, on est plus dans les règles contextuelles, mais il y a aussi le traitement morphologique aussi qui rentre en compte, et il ne faut pas l'oublier. Et de plus en plus de matériel, de recherche se base sur les traitements morphologiques pour les élèves en difficulté, parce que mettons, si tu sais que c'est un métier qui finit en heure, bah, tu vas l'écrire EUR, point final. Donc ça aussi, ça peut aider le vocabulaire, le sens, mais aussi l'orthographe. Fait que pour les élèves en difficulté, de plus en plus, ils mettent ça en avant aussi. Donc, et après ça, on peut avoir accès du coup avec les traitements non spécifiques, le processus non spécifique qui est la compréhension. Donc voilà.
Oui, j'aime beaucoup parler de la morphologie parce que là, ça les aide à apprendre tellement plus de mots qui sont nouveaux. Et surtout en science, tellement des mots sont très basés, des racines grecques ou latines. Puis là, ils peuvent quasiment deviner, prédire qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là grâce à sa racine, puis au préfixe et au suffixe.
Complètement. Puis il y a tellement de mots qui sont similaires aussi en anglais, fait qu'on peut travailler les congénères, etc. Fait que, oui, tout à fait. Et ça aide beaucoup. Si mes souvenirs sont bons, c'est 80% de la langue française qui est basée sur les langues grecques et latines. Donc, on peut vraiment s'en sortir. À un moment donné, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, l'histoire de Selfish. Est-ce que j'avais raconté l'histoire avant que j'étais enseignante, donc je faisais des costumes de théâtre et j'avais un projet et c'était un work in progress, donc il n'y avait pas de texte. Okay, c'était au fur et à mesure des répétitions, ils construisaient leur spectacle. Mais moi, j'étais en charge des costumes. Et là, j'entends le mot « selfish ». Je ne connais pas ce mot. Je me dis « sell », vendre, fish, poisson. Donc, c'était un poissonnier, il vend des poissons. Donc, à un moment donné, je lui ai comme mis un filet pour attraper des poissons. C'est que là, le metteur en scène me comprenait pas. Il disait, mais je comprends pas pourquoi il y a ça. J'étais comme, ok, je vais l'enlever. Mais c'est bien après que j'ai compris que selfish, ça veut pas du tout, mais pas du tout dire poissonnier ou vendre des poissons. Pas du tout. Fait que attention des fois à la morphologie.
Écoutez, là, on dirait c'est self, comme, apprendre à soi-même.
Et ish. Mais j'avais pas ces connaissances-là de cette morphologie-là. Mais ça fait du sens maintenant parce que self, exactement, c'est soi. Donc ça avait beaucoup plus de sens. Mais moi, j'étais restée à sell et fish.
Et ça aide aussi, je pense, à la morphologie si on voit le mot écrit.
Oui.
Mais bon, oui, ça marche pas toujours.
Ouais, morphologie, des fois, si on fait la conscience morpho, on va y aller plus dans l'oral, mais des fois, le support écrit peut aider. Peut-être que selfish, moi, en tout cas, dans le contexte de la phrase, peut-être que j'aurais un peu plus compris qu'il n'était pas du tout poissonnier. Donc, voilà.
Et peut-on revenir à la fois que les élèves se posent ou posent à un adulte pour mieux écrire des mots?
Ah, t'as raison. Merci beaucoup. Alors, pour les questions d'orthographe lexicale, les questions, ça peut être... Est-ce que bateau appartient à la règle des EAE en fin de mot? Oui. Est-ce que moto appartient à la règle des EAE en fin de mot? Non. Est-ce qu'il y a 4 syllabes écrites dans le mot cartable? Cartable, non. Fait que ça peut être des choses comme ça. Est-ce que car s'écrit comme question? Le son que? Non. Donc voilà. Et pareil, QU, c'est des mots questions, c'est des nombres. Donc ça aussi, ça peut être... Est-ce qu'on écrit K-C-A ou Q-U-A? Ben, la plupart du temps, le Q-U, c'est pour des mots-questions ou des nombres. 14, 15, la plupart du temps, je dis bien. Des mots-questions comme ma question, quand, quoi, quel, exact. Oui, le mot commence à écrire avec un C, c'est partie des mots qui ne font pas partie de la règle. Mais d'abord, on va y aller comme ça. Et aussi, ce que je fais, c'est que je fais un parallèle avec l'anglais. Comme le son « que » en fin de mot s'écrit « que » en français, mais en anglais, c'est plus « ck » ou « c », en tout cas. Ça peut aider aussi. Mais en français, on écrit « que » la plupart du temps. Je sais, il y a le mot « coq », c'est « q », mais la plupart du temps, c'est « que ».
Alors, est-ce que ce sont des questions par rapport aux règles qu'on avait déjà apprises? Alors, il faut qu'ils aient tout ça d'assez bien compris pour ensuite se poser des questions. Alors, ce n'est pas juste des questions écrites sur une feuille, puis ils se posent question numéro 1, ensuite numéro 2, ensuite numéro 3.
Non, ce n'est pas 1, 2, 3. C'est vraiment des questions. On peut faire ce qu'on appelle des amorces de questions ou des questions exemples, des questions types, mais il faut qu'ils les changent un peu. C'est pour ça que les élèves qui ont un peu plus de stratégie vont être un peu plus nos élèves qui vont être des modélisateurs. Et moi, ce que je fournissais, c'est que je donnais un référentiel de toutes les règles qu'on avait vues. Dans le fond. Donc, comme ça leur permettait aussi de voir laquelle était pertinente et je les mettais par deux. Fait qu'après ça, ils avaient leur dictée. Donc, ils échangeaient pas les dictées, par contre. Moi, ça, j'aime pas ça. Enfin, moi qui ai été une élève en difficulté, donner ma dictée avec plein d'erreurs à un autre élève, c'est l'enfer. Ils gardaient leur texte, mais par contre, ils se posaient des questions, ils comparaient leurs réponses et ils devaient dire, s'ils n'étaient pas d'accord, ils devaient argumenter en bienveillance. Mais ils avaient leurs règles devant eux. Et donc, ils corrigeaient grâce aux règles, etc. Et pour les élèves qui étaient un peu plus en difficulté, ben, on avait comme j'avais une table, ils étaient quand même par dyade, mais j'étais là pour les surveiller, enfin pas surveiller, mais superviser, pardon, pour les aider. Notamment, j'avais un élève qui avait un trouble du langage oral. Pour lui, c'était un peu plus difficile. Donc, je lui montrais, regarde, cette question-là, est-ce que tu peux l'adapter avec cette règle-là, etc. Et le fait qu'il soit en dyade, ben, ça aidait aussi, quoi.
Alors, pour les dyades, tu dirais plutôt des groupes homogènes, alors des élèves qui sont à peu près au même niveau.
Ouais, moi, je faisais comme ça. Ouais, je faisais à peu près comme ça. Ou comment l'élève peut aider l'autre élève inversement, etc. J'y allais avec les forces de chacun. Mes élèves qui avaient plus de stratégie, ben, je les mettais un peu plus ensemble. Parce que des fois, je pense à mon élève qui avait un trouble du langage oral, ben, l'élève qui avait beaucoup plus de stratégie, il allait plus vite dans sa réflexion. Puis en fait, l'élève avec langage oral, ben, il recopiait juste sans réfléchir le texte
oui,
de son voisin.
Oui, exactement.
Fait que moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un dialogue. Donc voilà.
J'imagine que tu faisais comme du modelage de quelles seraient les questions qu'on pourrait poser, des choses qu'on pourrait dire. Ben on a dit « lait », alors probablement « pomme » va avoir un « f » à la fin parce qu'on parle de plus qu'une pomme, ce genre de choses.
Exact. Pour les pommes, donc c'est pomme qui va donner son accord au pluriel. Donc moi, je dis, l'auteur, il a mis lait. Sûrement, dans sa tête, il a plusieurs pommes en tête. Donc, il va donner son pluriel à lait. Et donc, à pomme, il y aura un S. C'est ça mon raisonnement. Mais ça, je le fais à voix orale, à voix sonore. Enfin, ils l'entendent.
À haute voix, oui.
À haute voix. Merci. Voix sonore.
J'avais compris.
Donc, c'est ça, je modélise. On peut faire des dictées entraînement ou la phrase du jour. Ça peut être quelque chose sur lequel on peut s'entraîner aussi. Attention, on n'expose pas les élèves à des erreurs. On prend les erreurs des élèves pour un apprentissage, mais les textes corrigent cette phrase-là, etc. Ça, c'est aucun sens. On ne veut pas qu'ils soient exposés à des erreurs. OK?
Ah,
okay. Ouais. Fait attention à ça. Ou choisis la bonne orthographe, donc tu as une image d'un mouton, et choisis la bonne orthographe parmi quatre mots. Ça non plus, on ne veut pas.
On veut qu'ils voient la phrase corrigée, les mots bien écrits.
C'est ça. Par contre, si on veut qu'il y ait un travail réflexif de correction, on prend une phrase d'un élève et on fait un travail dessus. Donc, on peut dire à l'oral, mettons pour la phrase du jour, on peut dire à l'oral une phrase, les enfants l'écrivent. Puis là, on se dit, OK, toi, comment tu penses que ça a été écrit? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Pourquoi? Quelle est la règle? Nanana. Donc là, il y a ce travail-là. Et puis du coup, au fur et à mesure, on peut écrire les amorces de phrases avec les enfants. Donc après, quand on veut vraiment les évaluer, ben, ils ont déjà un entraînement, une base. Pareil aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les routines de pensée. Le donne 3, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est donne un compliment ou quelque chose qui a une bonne stratégie qui a bien été appliquée. Deux, quelque chose sur lequel tu dois t'améliorer, mais surtout comment tu vas t'améliorer. Donc, ça peut être une phrase écrite au tableau par un élève s'il est à l'aise avec ça. Et après ça, on dit, t'as bien écrit le mot pomme, t'as pensé au deuxième. Par contre, n'oublie pas, il manque un S à pomme. Pourquoi? Parce que pomme est un nom commun qui donne son accord à déterminant et à l'adjectif, pourquoi pas rouge, etc. Fait qu'il y a tout ça, puis le donne 3, il peut être appliqué, les routines de pensée, ça peut être appliqué à plein d'autres matières, là, vraiment.
Alors, ce que j'ai commencé il y a un couple d'années, puis chaque année, je change un petit peu, puis maintenant, grâce à cette conversation, je vais changer encore des choses, c'est que je fais la phrase du jour. Alors, on étudie comme une règle orthographique. Je fais comme tu avais mentionné, est-ce que je mets comme plusieurs mots au tableau, puis les élèves doivent trouver quelle est la règle qui les réunit. Ensuite, on fait comme un peu comme une étude de cette règle-là. Ils écrivent des phrases, mais ce que je trouve le plus difficile avec la phrase du jour, c'est de la dicter à haute voix. Il y a des élèves qui ont terminé en 5 secondes, puis il y a des élèves qui ont écrit que le premier mot. Il n'y a même pas de majuscule. Et comme avec un groupe, je leur ai dit, OK, lorsque tu as terminé, tu trouves le prédicat, le complément de phrase. S'il n'y a pas de complément de phrase, il faut que tu en ajoutes. Mais ils s'ennuyaient pas mal rapidement.
Est-ce qu'à ce moment-là, puisque toi, ton objectif premier, c'est la règle d'orthographe, c'est ça? Est-ce que pour les élèves en difficulté, tu leur donnes la phrase, sauf le mot que tu veux?
Okay.
Comme ça, ils vont pouvoir être à la même allure que tes élèves qui sont déjà un peu plus avancés.
Alors là, ils pourraient toujours trouver le prédicat, le complément de phrase par la suite, mais c'est juste un mot sur lequel ils doivent se concentrer.
Exact.
Oh, et ça j'aime leur... ça.
Et ils peuvent quand même me justifier pourquoi « joue » s'écrit « ent ». Tu vois, à l'oral, tu peux leur demander « pourquoi j'ai écrit « joue » ent » ? Ah, mais parce que les enfants, c'est le sujet, blablabla. Donc, ouais.
Ça va beaucoup nous aider, puis ça va prendre beaucoup moins de temps. Parce qu'attendre que ces élèves-là aient écrit toute la phrase, même si elles n'étaient pas si longues que ça, quand même, c'était comme les autres s'ennuient, puis commencent à faire de mauvais choix parce qu'ils s'ennuient. Puis,
exact.
Et j'aime beaucoup ça, je vais essayer ça.
Ouais. Parce que ton objectif, toi, c'est... En fait, pour les élèves qui ont plus de stratégie, tu veux qu'ils allient... orthographe, donc ta règle d'orthographe, mais aussi les accords, etc. Mais tes élèves en difficulté, c'est un objectif à la fois, un micro-objectif. Là, tu veux juste qu'ils comprennent l'orthographe, enfin la règle d'orthographe. Ouais.
Et une autre question, comment est-ce que tu... Telle et telle, toute la phrase écrite, pourquoi est-ce qu'eux autres ont ça, puis moi, il faut que j'écris toute la phrase au complet?
Chacun a son objectif de travail. Toi, tu as déjà plus de stratégie. Cet élève-là n'a pas encore de stratégie complète. Donc, son objectif à lui, c'est de travailler cette règle-là. Toi, ton objectif, ça sera de travailler... C'est pour ça que ce que j'aime faire, à la fin des dictées, même pour... Enfin, je le faisais avec des élèves en difficulté, mais pour tous les élèves, c'est je leur donnais « qu'est-ce que tu as réussi ?» Donc, je leur mettais un petit papier avec un pouce en l'air. « Qu'est-ce que tu as réussi ?» Donc, de quoi tu es fier? Et un autre, en dessous, c'était un petit dessin d'une flèche dans une cible. « C'est quoi ton prochain objectif ?» Et ça peut être des fois, même mon élève en difficulté, ça peut être les pluriels. Okay. Mais des fois, faut aider aussi les élèves en difficulté parce que des fois, il peut te dire écrire tous les mots exactement. Attends,
oui.
Wow, ça, c'est un gros objectif. On va y aller avec un objectif à la fois. Si déjà, tu m'écris le EAE en fin de mot, bon. Et du coup, ça te permet de justifier pourquoi lui, il a une dictée à trous et pourquoi toi, tu écris la phrase en entier. Votre objectif n'est pas le même.
J'aime ça. C'est comme tout le monde a des objectifs, tout le monde a des choses à améliorer, puis c'est pas pareil pour d'une personne à l'autre.
Exact. Puis ils voient bien qu'ils sont en difficulté. Enfin, on va dire, c'est comme ça. Ben non, mais ils voient bien qu'ils sont en difficulté, fait que l'objectif n'est pas le même. Donc, je veux dire, dans une classe, les élèves savent lesquels ont plus de facilité, ont plus de stratégie, puis versus d'autres. Donc, on veut. C'est pour ça que donner des objectifs différents et faire le parallèle avec, mettons, des sportifs. Ben lui, quelqu'un qui fait du ski, ben son objectif, ce sera de gagner en vitesse versus quelqu'un qui, où c'est les portes, je pense au ski, là, à pas foncer dans toutes les portes, etc. Fait que faire un parallèle aussi comme ça. Surtout les enfants, des fois, ils font du sport à côté, fait qu'ils comprennent ce parallèle-là, en fait.
Oui, c'est beaucoup plus évident avec un exemple sportif parce que c'est juste moi, c'est visuel.
Ouais.
OK, bien merci tellement d'être venu aujourd'hui nous parler de l'orthographe et comment on pourrait mieux l'enseigner. Puis j'imagine que c'est pas la fin de notre collaboration.
Mais écoute, c'est quand tu veux. Je pense qu'on a trouvé un autre thème, hein. C'était la compréhension, les processus non spécifiques, avec un peu plus de théorie.
Bien merci beaucoup, puis on se voit la prochaine fois.
À la prochaine, merci beaucoup.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.